Vous reprendrez bien un peu de paillettes, une nouvelle exposition au Basacle sur Marilyn Monroe vous en mettra plein les yeux.
Jusqu'au 3 novembre, l'icône Marilyn Monroe est à l'honneur à l'espace EDF Basacle à Toulouse. Le commissaire de l'exposition, David Laurence, est l'invité de Radio Présence. Bonjour monsieur.
Bonjour Isabelle.
Hier après-midi avait lieu à Toulouse le vernissage de cette exposition. Donc nous vous avons en avant-première ce matin sur Radio Présence. Quelle a été la première impression des spectateurs qui étaient en petit comité pour ce vernissage?
Je pense que c'était vraiment l'émotion. Vous savez, ce sont des personnes, Marilyn Monroe, les Kennedy, il y a James Dean, il y a Marlon Brando, on parle de tous ces gens-là, Truman Capote, qui est peut-être moins connu ici en France, mais ce sont des gens qui ont touché le public, et le public français en fait partie. Et à partir du moment où vous racontez une histoire qui est très proche de ces personnes, ça les touche énormément, voilà.
Nous allons décrypter avec vous
Ça marche.
Regardez un petit peu ce qu'elle propose. Marilyn Monroe, le secret de l'Amérique, c'est l'intitulé de cette nouvelle exposition au Basacle. David Dorance, vous avez à travers 240 photos présentées, vous avez voulu peut-être présenter certains aspects de la star. Quels sont-ils?
Bien, écoutez, ça fait des années, ça fait 28 ans que je travaille à Boston sur les archives des Kennedy. Et on parlait tout le temps de Marilyn Monroe. On me disait, mais David, quel est ton point de vue sur elle? De quoi est-elle morte? Voilà. Et puis, on a ouvert un hôtel particulier dans le sud de la France. Et on a commencé par faire cette première exposition qui était, en fin de compte, une sorte d'avant-première. Même si, malgré tout, celle de Toulouse présente la collection totale de Marilyn Monroe, Le secret de l'Amérique. Moi, ce que j'en retire, c'est qu'au début, Isabelle, je vais vous avouer, je n'étais pas un fan inconditionnel de Marilyn.
Oui, parce que vous avez
Je suis
plutôt
plutôt un
beaucoup
historien.
écrit sur les Kennedy.
Oui, sur les Kennedy, sur la présence américaine. Je suis passionné par les Kennedy, mais il y a aussi d'autres personnalités. Je venais de terminer une exposition sur Picasso, les lettres
Oui.
imaginaires. Et puis, je suis tombé sur des lettres écrites par elle. Et j'étais vraiment bouleversé. Vous savez, aujourd'hui, on est en 2024. L'exposition, je l'ai écrite il y a 2 ans. Elle n'a jamais quitté mon esprit. Je pense que je penserai à elle tout le temps. C'est assez étrange de dire ça, hein. On peut dire que je suis tombé amoureux d'un fantôme. Et c'était une femme incroyable. Au début, quand j'ai commencé l'écriture, donc je me suis aperçu qu'on avait lu des livres similaires. Elle était passionnée par la littérature.
Eh oui.
Et je peux vous raconter un petit exemple amusant. C'est la personne qui nous a prêté les objets qui sont fantastiques dans l'exposition, qui est une dame incroyable, qui a vécu à Los Angeles avec une énorme maison de production, m'a dit, mais David, quand elle a vu l'exposition, mais quel est le film que tu as vu de Marilyn? Quel est le film? Parce qu'elle était totalement bouleversée. Je lui ai dit, écoute, Maïté, il vaut mieux que tu t'assoies, parce que je n'ai vu aucun de ces films avant d'avoir écrit cette exposition. Je n'en ai vu qu'un seul, qui est Les Désaxés, parce que c'est surtout la femme. Je trouve qu'en plus, elle correspond totalement à ce qu'on dit des femmes et ce que les femmes revendiquent aujourd'hui. À savoir, c'est une personne qui voulait être libre, moderne, accomplir ses rêves, déterminée et surtout à s'engager pour des causes qui sont vraiment importantes, comme la limitation des essais nucléaires, comme le mouvement des droits civiques qui est porté par le pasteur Martin Luther King. Ce n'est pas du blabla, c'est vraiment quelqu'un qui s'est vraiment interposé à l'injustice. Par exemple, quand des Américains qui étaient jugés ou soupçonnés d'être proches communistes devaient s'expatrier, eh bien, elle est allée les voir au Mexique, officiellement, avec eux, en photo. Elle est aux côtés de gens qui défendent leur art et qui sont blacks et qui sont des pestiférés vis-à-vis d'une partie de la société américaine. C'est vraiment on pourrait dire aujourd'hui, le terme est amusant, mais c'est une sacrée nana. Elle est incroyable. Alors, c'est vrai que Arthur Miller disait, à partir du moment, bon, c'est très difficile, hein, si vous dépassez le cadre déjà de sa beauté, il faut, après ensuite, il y a quelque chose d'autre à voir sur elle qui est fascinant. Et c'est vrai que mourir ainsi aussi jeune, oui, ça fait beaucoup de peine parce que c'est une chic fille, elle ne méritait pas de mourir ainsi.
Elle avait 36
Et,
ans.
oui, 36 ans. Mais il y a une dame d'un certain âge, dimanche, dans le public, elle m'a dit, David, vous pensez qu'elle aurait dit oui si elle avait su ce qui allait lui arriver? J'ai dit oui tout de suite. J'en suis certain, ça.
En tout cas, c'est loin de l'image qu'on a de cette femme frivole, très,
Ah
très
non.
séductrice. Et là, vous avez vraiment voulu montrer une femme engagée, une femme très sensible, finalement.
Très sensible. Alors attention, hein. Elle, c'était de la dynamite. Hein. Miller disait quand elle était en soirée, elle pouvait faire exploser les couples, les gens tombaient amoureux d'elle, etc.
Hey.
Elle utilisait beaucoup de son charme. Hein.
Oui.
Une fois, elle était avec une de ses amies à New York. Elle lui dit, écoute, Marilyn, personne ne t'a reconnue. Elle dit, c'est normal, je suis Norma Jean. Elle dit, mais comment tu fais alors pour être Marilyn Monroe? Oh, regarde, elle prend son chewing-gum, elle le met sous son talon et elle marche en glissant son popotin et tout le monde la reconnaît. Donc c'est une. Oui, elle savait très bien qu'elle était très belle, elle savait qu'elle était très désirable, mais par contre, elle a eu une histoire d'amour. Arthur Miller, c'est ce dramaturge qui est le plus grand dramaturge du XXe siècle, hein, a été vraiment, je pense, son grand amour. Et puis, un autre sentiment qui a perduré durant toute son existence, c'est la recherche de son père. C'est
Oui,
une
parce
jeune
qu'elle ne l'a
fille
jamais
qui.
connu, elle connaissait même pas son nom.
Alors, elle connaissait son
Ah
nom,
si.
puisque elle l'appelait régulièrement Charles Stanley Clifford, avait quitté Los Angeles pour se remarier une troisième fois. Il voulait s'évader du tumulte de cette ville, hein, qui est incroyable, Hollywood et tout ça. Il s'est acheté une ferme laitière, où il avait une petite épicerie, où les enfants venaient le voir. C'était un personnage très sympathique du village, et son épouse était l'institutrice de l'école. C'est quelqu'un, vous savez, je pense pas qu'il ait pu oublier sa fille, ça j'en suis convaincu.
En tout cas, il a
Mais il
dû en
voulait
entendre
surtout
parler.
s'éloigner de. Oui, il voulait s'éloigner. On a parlé du début de votre émission des paillettes, vous voyez, de Hollywood, etc. Et on parle, bon, je vous le dirai peut-être à la fin de l'interview, mais lui, il va survivre à la mort de Marilyn, il va partir en 65. Et je suis persuadé que il avait beaucoup de chagrin. Et surtout, on a découvert, alors je ne sais pas si vous le savez, on a découvert c'était son vrai père grâce aux recherches du CNRS de Toulouse.
Ah bon?
Oui, ça c'est incroyable. Ouais. Il y a une étude qui a été faite à la demande d'un écrivain français, j'ai perdu le nom ce matin, et par les cheveux, qui ont été des vêtements qui ont été prêtés par la nièce de Charles Stanley Clifford, on est certain 99,9% que cet homme était son père naturel, et cette recherche a été faite par le CNRS de Toulouse. Donc il y a vraiment un lien entre Toulouse et Marilyn, parce que, en fin de compte, c'est une réponse qu'elle voulait avoir pendant toute sa vie.
Oui, certainement, oui, la recherche de ses origines. Dans cette
Oui.
exposition, Marilyn Monroe, Le secret de l'Amérique, David Lawrence, il y a donc 240 photos et chacune est accompagnée de textes que vous avez vous-même composés, puisque vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Nous avons parlé de ces ouvrages sur les Kennedy, mais aussi Picasso et puis de nombreux autres titres, pardon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que vous avez voulu écrire à travers ces textes?
Alors, la méthode de travail, c'est que moi, je crois beaucoup, ça va peut-être surprendre vos auditeurs, hein, je crois beaucoup aux esprits, je crois beaucoup aux fantômes, je pense que quand la vie se termine, il y a autre chose, il y a derrière. Et quand vous êtes écrivain et que vous en êtes persuadé, il faut attendre une certaine musique, la musique arrive, et puis vous mettez au clavier, parce que ça fait longtemps que je travaille plus sur du papier avec un crayon. Ça, c'est, maintenant, on est dans l'ère moderne, hein. Et puis ensuite, quand les textes sont livrés, je les donne à ma correctrice Maya, qui les lit, qui les relit, etc. Et après, on cherche des photos. Des photos qui vont être adaptées au texte. Et puis, l'histoire commence. C'est comme dans un film, hein, ou un livre. C'est un album ouvert, en fin de compte.
Donc vous
Et je me
commencez
suis
par le
aperçu.
texte et après vous l'illustrez
Oui,
en fait
tout
par
le
la
temps.
photo. D'accord.
Oui, tout le temps. Et ce qui est assez étonnant, dans les recherches des photos, on trouve toujours la photo qui va correspondre au texte. Et lorsque j'ai commencé, là, par exemple, dans une exposition qu'on fait sur les Kennedy à Saint-Palais-sur-Mer, il y avait énormément de textes. Où là, j'ai fait, par exemple, à Picasso, des lettres imaginaires, les textes sont importants. La plupart des gens disent, ah bon sang, David, je ne sais pas si les gens vont tout lire. Eh bien, figurez-vous, Isabelle, si vous rentrez dans ces expositions, vous avez l'impression d'entrer dans une église. Les gens ne prient pas, hein, mais ils lisent les textes, ils sont dans le calme, ils sont dans l'émotion. Et on les voit complètement. Comment je pourrais envahi par l'atmosphère des personnages qu'on cite, les moments, etc. Et je pense, vous savez, quand on est à table, par exemple, dans des repas de famille importants, lorsque notre grand-père ou notre grand-mère ou des gens plus âgés nous racontent des histoires, eh
On
bien, toute la table
écoute.
se tait en général. On
C'est
les
vrai.
écoute, etc. Et ce sont des textes qui redonnent vie à ces gens-là. Parce qu'en fin de compte, finalement, ces gens-là ne mourront jamais. Grâce à nous, les écrivains, les producteurs, etc. Et comme
Oui, c'est une
bon, la
façon de
production.
prolonger leur mémoire. C'est vrai.
Oui, tout à fait. Et la maison de production qui est Arespo Première a très bien compris ça. C'est vraiment une émotion qu'on offre au public. Et franchement, ça vaut le coup d'y aller.
Alors, autre émotion, ce sont les nombreux objets
Oui.
qui sont exposés, des vêtements, des bijoux qui ont appartenu à Marilyn Monroe. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, nous dire un petit peu ce qu'ils nous disent aussi de la femme qu'elle était?
Ah ben, je vais raconter une petite anecdote. Quand on a fait le montage, on a mis du jonc de mer, vous savez, des murs blancs, etc. Il y avait une dizaine d'employés. Et l'un d'entre eux, je lui dis, est-ce que tu connais James Dean? Non. Alors, trop jeune, évidemment. Ça ne me dit rien. Et puis, il y en a un, plus loin, plus âgé, me dit, mais si, David, moi, je connais James Dean. C'est une idole. Alors, je dis, écoute, ferme les yeux. Il dit, tu vas pas me faire de mal. Je dis, non, 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 t'inquiète pas. Montre-moi ta main. Et donc, dans sa main, je venais de sortir le briquet personnel de James Dean, je lui ai mis. Je peux vous assurer, Isabelle, que quand je lui ai expliqué à qui appartenait cet objet, cet homme avait énormément d'émotions. Donc, les objets ont une âme. Les objets que vous avez continuellement ont une âme. Et par exemple, Marilyn ne quittait jamais sa timbale de naissance parce que c'était le lien qu'elle avait avec sa mère. C'était le lien qu'elle avait avec ce père qu'elle ne connaissait pas, et le lien qu'elle avait avec son enfance, parce qu'elle a eu une enfance très heureuse, totalement différente de toutes les conneries qu'on a racontées dans les livres. Elle n'a pas vécu comme une malheureuse dans un orphelinat. Sa mère avait de l'argent. Sa mère a acheté une maison pendant la crise de 1929, pour vous dire. Mais elle l'a confiée à une famille d'accueil à Hawthorne, c'est une petite ville balnéaire à côté de Los Angeles, parce qu'elle voulait garder son emploi. Elle était dans un laboratoire cinématographique et son objectif à elle, c'était pas de dépendre d'un homme, c'était pas de dépendre de quelqu'un qui lui donne de l'argent. Et elle a compris, elle aimait cet enfant, mais il fallait absolument qu'elle garde cet emploi, et elle a confié son bébé quelques jours après sa naissance à cette famille les Bolander, cette famille d'accueil. Et tous les dimanches, elle ne va rater aucun dimanche pour revenir la voir. C'est pour ça que Norma Jean, qui est son vrai prénom, disait aux Bolander, qui est la jeune femme qui a des cheveux rouges, qui vient me voir chaque jour, etc. Et les Bolander lui disaient, c'est ta vraie maman,
C'est ta
c'est
vraie
elle qui
maman.
t'aime. Ouais.
Y a des objets, vous avez parlé de ce briquet personnel de James Dean, il y a aussi l'étui à cigarette personnel de Marlon Brando, et puis
Oui.
une paire de boucles d'oreilles portées par Lauren Bacall. Évidemment, ça nous fait penser à ce film qu'elles ont tourné ensemble, Comment épouser un millionnaire. Est-ce que ça permet de faire des connexions aussi sur la
Les
carrière quand
photos?
même de l'actrice?
Oui, parce que Marlon Brando, pourquoi Marlon Brando? Alors, elle a vu un travail nommé Désir. Elle voit la projection, elle est invitée à l'avant-première avec Truman Capote, et elle dit à Truman, mais qui est cet acteur? Mais comment fait-il pour jouer aussi bien, interpréter aussi bien ce personnage qu'elle avait déjà vu sur cette pièce de théâtre qui a eu un immense succès sur Broadway? Et Truman lui dit, mais ma chérie, c'est l'acteur studio, c'est Lee Strasberg. Elle dit, mais qui est cet homme? Oh, il officie dans une chapelle désacralisée à New York, où il apprend à des jeunes talents comme toi comment interpréter un rôle et non le jouer. Et c'est là qu'elle va rencontrer Strasberg, qu'elle va rentrer à l'Astor Studio, qu'elle va rencontrer Steve McQueen, Paul Newman et Marlon Brando. Une amitié très importante va les lier. Et Marlon Brando dira, quand il est sur le tournage des Révoltés de Bounty, cette femme est importante pour la société américaine. Elle n'est pas la blonde idiote que prétend montrer Hollywood. C'est une femme qui est engagée et elle était à mes côtés pour le mouvement des droits civiques. Et je pense, malheureusement, elle est décédée en 62. Hein, mais lorsque Martin Luther King a partagé son rêve à 240 000 Américains au Lincoln Center à Washington, je pense qu'elle aurait été présente à côté de Charlton Heston, Bob Dylan, tous ces gens-là, parce qu'elle était engagée pour des grandes causes comme celle-ci.
Alors, cette exposition, David Laurence, fait partie de la trilogie qui sera présentée dans son intégralité au Bazac. Vous avez évoqué cette exposition actuellement sur Jackie Kennedy, et elle arrivera justement à Toulouse avec une autre exposition sur la princesse Lady Di, Diana Spencer.
Oui.
Quelle part prenez-vous dans ces deux autres expositions, David Laurence?
Alors, Jacqueline Kennedy, c'est une femme que je connais entre guillemets depuis une trentaine d'années, puisque je travaille sur les archives des Kennedy. C'est une femme exceptionnelle. Je peux vous raconter une anecdote ou on n'a pas le temps?
Il nous reste
Je ne
une
sais pas qui.
minute.
Une minute. Ah, bah alors je vais essayer de faire vite. Lorsqu'elle a perdu son mari, après les funérailles, elle est allée voir le père Léonard. C'était son ami. Et ils se sont baladés au Lincoln Center. Et elle dit, mon père, comment se fait-il que vous pouvez croire en Dieu parce qu'il a laissé mes deux enfants, Caroline et John Junior, tout seuls? Il doit être cruel. Alors le père Léonard lui a dit, Madame Kennedy, je vais vous raconter une parabole. Jésus se promène à Jérusalem avec ses disciples et croise un mendiant aveugle. Aussitôt, les disciples demandent à Jésus, est-il aveugle parce que ses parents ont péché ou parce que lui a péché? Et Jésus leur répond, il n'est pas aveugle pour cela, il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu se réalise en vous. Et là, Léonard se tourne vers Madame Kennedy en disant, actuellement, vous êtes aveugle, mais pour que l'œuvre de Dieu se réalise en vous. Aujourd'hui, il y a les gens qui nous écoutent, on traverse tous des drames, ça nous arrive. Hein. On pense que à partir de ce moment-là, les choses vont se terminer, vont plus jamais se reproduire. Eh bien, j'en ai fait l'amère expérience, on va dire, et maintenant la joyeuse expérience, les choses se reproduisent si on se bat. Les rêves peuvent être réalisés si on se bat et si on y croit. Voilà.
Et
Il faut
c'est aussi
s'accrocher.
l'espérance chrétienne dont nous essayons de témoigner à cette antenne. Merci
Eh ben,
beaucoup,
génial.
David Laurens,
Merci Isabelle.
commissaire de
En tout cas,
l'exposition
vous avez la
Marilyn
pêche à
Monroe.
7h40. Hein.
Comment?
Vous avez la pêche à
Ah bah
7h40.
oui, il faut, oui. On est là pour réveiller nos auditeurs. Donc vous êtes le commissaire de l'exposition Marilyn Monroe, le secret de l'Amérique, une exposition à découvrir à l'espace EDF Bazac à Toulouse jusqu'au 3 novembre. Bonne journée.
C'est gentil à vous, Isabelle. À bientôt.